Nous lisons le psaume sur lequel notre pasteur Timothée va prêcher tout à l'heure. Psaume 145, une louange de David. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai. Et je louerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération glorifie tes œuvres, qu'elle raconte tes exploits, la magnificence éclatante de ta gloire. Je méditerai le récit de tes merveilles, on parlera de ta force redoutable, et je redirai ta grandeur. On évoquera le souvenir de ton immense bonté et l'on acclamera ta justice. L'Éternel fait grâce, il est compatissant, lent à la colère et rempli de bienveillance. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te célébreront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Et diront la gloire de ton règne et parleront de ta puissance pour faire connaître aux humains tes exploits et la gloire magnifique de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans toutes les générations. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et redresse tous ceux qui sont courbés. Tous avec espoir tournent les yeux vers toi. C'est toi qui leur donnes leur nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bienveillant dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec vérité. Il réalise les souhaits de ceux qu'il craignent. Il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et détruit tous les méchants. Que ma bouche dise la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité.
Bonjour à chacun, c'est une grâce d'être ensemble ce matin pour ouvrir la merveilleuse parole de Dieu qui nous a donné et qui est valable encore maintenant depuis déjà quelques milliers d'années, puisque Dieu reste stable, sa parole également. Si Dieu ne donnait pas à manger aux oiseaux, que deviendrait-il? Ben, il n'y en aurait plus. Matthieu le dit, Matthieu 6 le dit clairement que c'est lui qui nourrit les oiseaux. Eh bien, si Dieu par son esprit n'éclaire pas nos cœurs devant la parole de Dieu, nous ne pouvons pas comprendre et être nourris dans la foi. Nous comptons donc sur l'œuvre de Dieu pour être nourris par sa parole ce matin, tout à nouveau. Et ce dimanche est un jour particulier, tout à fait particulier, parce que c'est le dernier dimanche de l'année 2015, il est vrai, mais aussi le dernier dimanche où nous passons un culte habituel ici dans cette salle de paroisse de Peseux. Alors, afin de marquer ce moment particulier, j'ai pensé prêcher sur la reconnaissance. Car notre cœur est bien sûr rempli de gratitude par toutes ces années passées sous la bienveillance de l'Église réformée évangélique de Neuchâtel à notre égard. Et en cherchant, j'ai été attiré par ce psaume 145. Parce que ce psaume 145 va en fait encore un peu plus loin. Il va nous permettre de tourner nos regards vers celui qui, ultimement, est derrière tous ses bienfaits. Celui qui a de la bonté en abondance. Et même si nous voulons, c'est vrai, exprimer notre reconnaissance à ceux qui nous ont si bien accueillis, c'est l'Éternel que nous voulons louer. Alors, ce psaume 145, comme je l'ai déjà entendu, et je trouve ça très intéressant, est comme en fait un feu d'artifice de louange. Pas juste une petite fusée, mais en fait comme un bouquet final du livre des psaumes. Ce psaume est en fait un psaume alphabétique. Donc chaque verset commence par une lettre de l'alphabet hébreu. Hein. Ceci, je pense, particulièrement pour qu'on puisse bien s'en souvenir, mais aussi pour qu'on puisse comprendre que c'est peut-être une notion de la louange de A à Z. Un petit peu la notion de la plénitude, en fait, de la totalité. Et ce psaume introduit les cinq derniers psaumes de la Bible qui commencent tous par Alléluia, qui veut dire louer l'Éternel. Alors, nous ne parviendrons pas en une prédication voir toutes les perles qu'il y a dans ce psaume, il est très très riche, mais j'espère que les éléments que nous allons voir ensemble nous aideront à louer notre Dieu de tout notre cœur. Alors, dans les versets 1 à 7, nous allons comprendre que Dieu, en fait, dépasse notre imagination. Dieu dépasse notre imagination. Ensuite, les versets 8 à 13, nous présenterons un Dieu de délivrance. Et la dernière partie du psaume nous dépeint en fait la providence de Dieu. C'est en fait nos trois points. Hein. Dieu dépasse notre imagination, un Dieu de délivrance, un Dieu de providence. Donc un Dieu qui dépasse notre imagination. Donc, avant de parler de Dieu lui-même, le psalmiste dit ce que cela suscite en lui. Quelles sont les trois choses que David fait lorsqu'il veut parler de Dieu ici dans ce psaume? Vous le voyez dans les premiers versets. La première chose, il exalte Dieu. Il exalte Dieu. Alors que veut dire exalter? Je pensais bien qu'on connaisse un petit peu la signification de ces termes. Eh bien, exalter, cela veut dire élever très haut ou le proposer à l'admiration. Donc David propose Dieu à l'admiration de tous. Il exalte Dieu. Deuxièmement, il bénit Dieu. Ce qui veut dire du bien de lui. Il dit du bien de lui. Oh, je trouve intéressant, le dictionnaire Robert dit aussi que bénir signifie louer et glorifier Dieu pour le remercier par des actions de grâce. Intéressant. Voilà, bénir Dieu. Et troisièmement, il loue Dieu. Que veut dire louer ? Eh bien, cela veut dire déclarer Dieu digne d'admiration et de très grande estime. Ça, c'est louer Dieu. Donc, il exalte Dieu, il bénit Dieu, il loue Dieu. Imaginez qu'un enfant rencontre le roi d'un pays riche qu'il aime. Ça va là ? Bon, on n'a plus trop l'habitude des rois, hein. Peut-être ça qui est un petit peu plus difficile. Mais voilà, un enfant qui rencontre un roi d'un pays riche qu'il aime, il est fasciné, il est ébahi, il est impressionné par la richesse, par la puissance de ce roi. Et si ce roi prend soin de lui et lui manifeste de la bonté, on pourrait dire qu'il n'en peut plus. Sa louange doit sortir de sa bouche. Il ne peut que dire aux autres tout ce que ce roi fait pour lui, ce qu'il est, la grandeur qu'il a, la puissance qu'il a, etc. Et David, en fait, est plus que fasciné. Il est impressionné par l'Éternel. Et il indique pendant combien de temps il aimerait exalter, bénir et louer Dieu. Vous avez vu ça dans le texte ? Pendant combien de temps David aimerait exalter, bénir et louer l'Éternel ? Eh bien, il le répète deux fois. À toujours et à perpétuité. C'est assez long, non ? Mais oui, en fait, il veut dire que pour un Dieu infini, un Dieu qui est tellement grand qu'il a de la peine à le décrire, hein, comme quand on essaie de le louer, de l'adorer, on a de la peine, les termes sont trop fades souvent, même si on utilise les hyperlatifs. Ce Dieu est tellement infini que sa louange devrait être infinie. Et en plus, il souligne très clairement qu'il veut le faire chaque jour. Donc ce n'est pas simplement de façon infinie, de façon indéfinie, mais chaque jour, chaque jour. Que faites-vous chaque jour? On fait beaucoup de choses chaque jour. Mais par exemple, on s'endort chaque jour, on se réveille chaque jour. Pourquoi ne pas bénir l'Éternel chaque jour? Et je nous encourage chacun à bénir l'Éternel. Et nous le faisons régulièrement, déjà avant le repas. Eh bien, continuons à le faire. Certains utilisent même cette prière, hein, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Il ne faut pas que ça devienne une habitude, il faut que ça soit réellement du cœur, c'est vrai. Mais c'est une bonne chose de le faire régulièrement. Pour un Dieu infini, ayons une louange infinie. Mais chaque jour. Et au verset 3, David présente celui qu'il appelle son Dieu, son roi. L'Éternel, regardez au verset 3, l'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Insondable. En fait, il est impossible de mesurer la grandeur de Dieu. Il est impossible de mesurer la grandeur de Dieu. Et je vois deux domaines particuliers dans la création. Est-ce que vous connaissez-vous des domaines que l'on ne peut pas mesurer? Quelque chose qu'on ne peut pas mesurer? On doit un peu réfléchir. Hein? Souvent, dans notre double mètre, on arrive à mesurer notre appartement, etc. Mais que ne peut-on pas mesurer? Eh bien, nous le voyons par exemple dans l'infiniment grand, comme l'univers. Qui peut mesurer l'univers? Qui peut mesurer l'univers? Personne. Parce que chaque fois qu'on découvre une limite de l'univers, peu de temps après, on en découvre une autre. Dans l'infiniment grand et aussi dans l'infiniment petit. Comme dans les plus petites particules, qui peut les mesurer, les identifier? Personne. Parce que comme dans l'infiniment grand, à chaque fois que l'on découvre le plus petit, il y a ensuite une découverte de plus petit encore. Et Dieu est infiniment plus grand que l'univers et infiniment plus précis que la plus petite des particules. Alors qu'est-ce que cela fait de comprendre que Dieu est grand? Quand on comprend que Dieu est grand, eh bien le texte le dit lui-même. Nous trouvons en fait les applications directement dans le psaume. Il est dit au verset 4 que chaque génération glorifie les œuvres de Dieu et raconte ses exploits. Chaque génération, on a vu à perpétuité, donc chaque génération glorifie les œuvres de Dieu et raconte ses exploits. Donc transmettons avec joie et zèle les exploits de Dieu qui, au fil de l'histoire, ne cessent de croître puisqu'en fait, il continue d'en faire encore maintenant. Mais n'hésitons pas à transmettre les exploits de Dieu que nous connaissons. Ensuite, David continue dans ce psaume et prend personnellement l'engagement. Non seulement il dit qu'il faut transmettre de génération, mais il prend personnellement l'engagement de parler de la magnificence éclatante de la gloire de Dieu. Donc de parler de cette magnificence éclatante de la gloire de Dieu et de méditer le récit de ses merveilles et de redire sa grandeur. Trois choses pour lesquelles David prend l'engagement ici. Il prend l'engagement de parler de cette magnificence. Il prend l'engagement de méditer sur les récits de ses merveilles et de redire sa grandeur. Il n'a pas peur de le répéter encore. Et la gloire de Dieu est tellement grande que David peine à trouver ici les mots assez forts. Il parle de magnificence éclatante. Aujourd'hui, peut-être qu'il dira c'est une méga-giga gloire. Puis encore, c'est des termes tellement petits face à la grandeur de l'Éternel. Est-ce que nous le voyons aussi comme ça? Est-ce que nous voyons Dieu dans cette gloire si grande? Et comme nous l'avons vu, David s'engage à méditer les récits de ses merveilles. C'est ce qui lui permet de voir la gloire de Dieu et c'est ce qui nous le permet aussi. Si parfois on a de la peine à voir la grandeur, la majesté, la gloire de Dieu, eh bien méditons sur les récits de la grandeur et de la gloire de Dieu. Et nous trouvons trois conséquences à ces applications. Et nous pouvons être certains qu'elles se réaliseront. Il y a des conséquences, en fait, à mettre en pratique ceci. La première, c'est qu'on parlera de la force redoutable de Dieu. Non seulement ceux qui connaissent Dieu et qui le connaissent de façon intime, mais même les autres. Et nous le voyons, par exemple, avec Rahab, si on va dans l'histoire, qui dit clairement que l'on parle de la force redoutable de Dieu dans tout Canaan. Deuxièmement, on évoquera le souvenir de son immense bonté, ce souvenir de la bonté de Dieu. Et en fait, nous le vivons actuellement en pensant, par exemple, à la bonté de Dieu à notre égard pour les locaux qu'il nous a donnés. Ce souvenir, évoquer le souvenir de son immense bonté. Et troisièmement, on acclamera ta justice. Toutes les actions de Dieu, en fait, sont parfaitement justes. Et ceux qui vivent dans la vérité reconnaissent la justice de Dieu. Et au retour de Christ, tout genou fléchira et reconnaîtra sa justice. Tout genou. Il n'y en a pas un qui ne fléchira pas le genou devant l'Éternel et qui reconnaîtra sa justice. Donc il ne le reconnaîtra pas. Tout le monde le reconnaîtra. Donc la première partie de ce psaume 145 nous montre la grandeur de ce Dieu bon. Et c'est vrai que j'ai été un peu tenté d'aller dans beaucoup d'éléments de la création pour vous montrer sa grandeur. Le problème, c'est qu'on serait encore là cet après-midi. Il y a tellement de choses à dire. Donc je m'arrête dans cette notion et je vous encourage, si vous voyez des éléments de la création de Dieu, n'hésitez pas à prendre du temps à l'observer. Allez le voir. À comprendre quels sont les petits éléments que Dieu a fait qui manifestent sa grandeur. Et en fait, lorsque nous réfléchissons à cette grandeur de Dieu, eh bien, qu'est-ce qui va se passer dans nos cœurs? Nous allons commencer à le louer. Nous allons commencer à reconnaître ce qu'il a fait. Et nous allons commencer à désirer que tout le monde le connaisse. Nous allons commencer aussi à l'adorer. Parce qu'il est le seul vrai Dieu. Il se révèle aussi par sa création. Mais bien sûr, il se révèle aussi dans sa grandeur par son œuvre. En Jésus-Christ. Nous allons en parler. La deuxième partie que nous allons aborder justement continue à nous présenter Dieu. Et le titre que j'ai donné à cette partie, c'est un Dieu de délivrance. Nous avons un Dieu de délivrance. Non seulement il est grand et infini, mais nous avons un Dieu de délivrance. Au verset 8, regardez avec moi au verset 8, le psalmiste en fait présente Dieu, poussé par le Saint-Esprit qui l'a guidé dans ce texte. Alors qu'est-ce qu'il est dit? Il fait grâce. Ce Dieu fait grâce. Il est compatissant. Ça veut dire quoi être compatissant? Eh bien, être compatissant veut dire prendre part aux souffrances d'autrui. Et il l'a fait en Jésus-Christ. Donc, il fait grâce. Il est compatissant. Il est lent à la colère. Il est lent à la colère. Il est rempli de bienveillance. Tout ça, le psalmiste nous le présente pour qu'on puisse le saisir encore un petit peu plus. Et quand on commence à réfléchir à la situation dans laquelle nous sommes, en fait, le monde, par la chute de nos premiers parents, a été soumis au péché. Ce péché que nous commettons également. Et ce péché, en fait, nous sépare de Dieu, nous met sous son juste jugement, sous sa colère. Mais Dieu ne nous a pas laissés dans cette situation dramatique. Et le psalmiste, qui ne connaissait pas encore l'accomplissement de l'œuvre de Jésus-Christ, connaissait déjà la grâce de Dieu, sa compassion et sa bienveillance. Parce qu'il pouvait le lire dans Exode 34, au verset 6, parce que c'est comme ça que Dieu s'était présenté à Moïse. Lorsqu'il lui avait dit, on lit dans le texte, hein, l'Éternel passa devant lui en proclamant, l'Éternel Dieu est compatissant, et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. David connaissait ce texte. Non seulement il connaissait ce texte, mais il l'a lui-même expérimenté dans sa vie. Par exemple, lorsqu'il a gravement péché en commettant adultère et meurtre, quand il se repent, Dieu lui fait grâce. Dieu lui fait grâce. D'autre part, David a été gardé de la mort. La bienveillance de Dieu lui a été manifestée longtemps dans sa vie, quand il était face aux bêtes féroces, quand il gardait ses brebis, Dieu l'a toujours gardé en vie. Lorsque David a été poursuivi pour être mis à mort pendant de nombreuses années par Saül qui était jaloux, Dieu l'a protégé. Et nous pouvons continuer jusqu'à la fin de sa vie. Dieu a montré de la bienveillance à David. Alors nous qui connaissons l'œuvre de Jésus-Christ, nous avons bien sûr encore plus de raisons de voir la grâce, la compassion et la bienveillance de Dieu. Est-ce que hier, vous êtes allé sacrifier un agneau? Vous n'êtes pas allé? Pourtant, il y a chaque jour le sacrifice journalier. Là. Christ a tout accompli. Christ a été sacrifié, un sacrifice parfait pour que nous puissions être sauvés. Nous avons des raisons bien plus grande encore que David, de nous réjouir de la délivrance de l'Éternel. Jésus, qui est Dieu, est venu prendre part à nos souffrances. Il est même allé plus loin que la compassion. La compassion, c'est prendre part aux souffrances que nous vivons. Lui, il a fait plus. Il a pris des souffrances sur lui que nous ne vivrons jamais. Il a souffert des choses pour que nous ne les souffrions jamais. Par exemple, il a été abandonné à la croix et il l'a subi afin que nous ne subissions jamais cet abandon. Celui qui est en Christ n'est jamais abandonné en Dieu, par exemple. Un Christ a vécu une vie parfaite et a payé le prix du jugement qui pesait sur ceux qui se repentent. Cette œuvre est la raison qui permet à Dieu de faire grâce tout en étant saint et juste. Les œuvres de Jésus-Christ, et là je reprends les paroles du psaume, tes œuvres célèbres, te célèbrent l'Éternel, eh bien on peut dire les œuvres de Jésus-Christ célèbrent l'Éternel. Le verset 10 dit que toutes les œuvres de Dieu le célèbrent et que ses fidèles le béniront. Tous les fidèles bénissent Jésus-Christ qui a reçu le règne. Il est roi élevé au-dessus de tout. Et son règne est éternel. Ça, c'est important. Parce que si Jésus-Christ était roi seulement pour un temps, notre espérance serait seulement pour ce temps-là. Alors que Jésus-Christ est roi éternel. Il n'a pas de fin. Nous n'avons pas un Dieu de petite délivrance, mais un Dieu d'une délivrance éternelle, parce que son règne est éternel. Même un des plus grands, si ce n'est le plus grand des empereurs, a dit, et c'est écrit dans Daniel 4, au verset 31, je vous lis ce que ce roi a dit. Donc, après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. On a l'impression qu'il a lu le psaume 145, Nebuchadnezzar. Tous les habitants de la terre, je continue, tous les habitants de la terre sont comme s'ils n'avaient pas de valeur. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui dise « Que fais-tu ?» En ce temps, la raison me revint. L'honneur, ma royauté, ma gloire, ma splendeur me furent rendus. Mes conseillers et mes grands me réclamèrent. Je fus rétabli dans ma royauté et ma grandeur ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Même un empereur, un des plus grands, loue le Dieu des cieux. Dieu a agi. Vous savez, si un roi délivre son peuple de ses ennemis, ce peuple est délivré de ses ennemis tant que le roi vivra et qu'il aura la puissance de maintenir cette paix. Mais quand le roi est détrôné ou qu'il meurt, le peuple sera de nouveau dans le pouvoir de l'ennemi. Vous êtes d'accord? Ou bien, on peut parler dans nos corps. Hein, lorsque la maladie qui représente l'ennemi est maîtrisée par les anticorps, si ces anticorps meurent ou sont insuffisants, la maladie reprend le dessus et il y a là un nouveau combat. Mais Christ a vaincu l'ennemi une fois pour toutes dans son œuvre. Il est ressuscité et il ne va plus jamais mourir. Il ne sera jamais détrôné parce qu'il est Dieu. C'est ça notre roi. Celui qui justement est venu pour nous donner la vie. Et cette vie, personne ne peut nous la reprendre. Et le verset 13, dans psaume 145, nous parle de la durée de ce règne, pour simplement montrer que tout ce que je viens de dire est écrit là. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans toutes les générations. En fait, la bonté de Dieu se manifeste par sa délivrance, et c'est une délivrance certaine et définitive, car il règne à toujours. C'est une délivrance certaine et définitive, parce qu'il règne à toujours. Alors la question que j'aimerais nous poser, vous poser ce matin, connaissez-vous cette délivrance de l'Éternel? Avez-vous de la joie à être sous son règne? Vivez-vous de la joie de cette délivrance et la sécurité que nous donne la gloire de notre roi? Aimons-nous parler de la gloire et du règne de Dieu? Et là, ma prière, c'est que l'Éternel, en fait, nous remplisse de fierté. Vous avez déjà été fier une fois dans votre vie? Eh bien, si vous ne l'avez pas encore été, ben je le souhaite que vous le soyez pour notre Seigneur et notre Dieu. Si vous l'avez déjà été, vous connaissez un petit peu ce que c'est déjà. D'être fier de ce que Dieu fait, de ce que Dieu a fait, de ce qu'il va encore faire, puisqu'il nous a déjà parlé de ce qu'il allait faire. Fier, rempli de respect, d'admiration, d'émerveillement de sa délivrance et de son règne qui nous assure sa bienveillance. Sa bienveillance qui se renouvelle chaque matin. Ce Dieu qui dépasse notre imagination par sa grandeur, ce Dieu qui délivre de façon si sûre est également un Dieu qui se préoccupe en fait de notre quotidien. Et c'est notre troisième point qui nous engage dans une compréhension présentée dans ce magnifique psaume, à la fin de ce psaume, les versets 14 à 21, qui nous parle justement de ce Dieu de providence. Providence signifie, selon le dictionnaire Robert, « sage gouvernement de Dieu sur la création ». Le sage gouvernement de Dieu sur la création. Eh bien, la bonté de Dieu qui règne se manifeste dans le soin qu'il prodigue. Et là, on a toute une liste. David, il veut vraiment qu'on comprenne qu'il prenne soin. Il nous fait toute une liste dans ce psaume. Je vais simplement vous les énumérer. Ensuite, on parlera de un ou deux d'entre eux. Premièrement, il soutient ceux qui tombent. Il soutient ceux qui tombent. Il redresse ceux qui sont courbés. Il redresse ceux qui sont courbés. Il donne la nourriture et rassasie. Il donne la nourriture et il rassasie. Il agit avec justice dans tout ce qu'il fait. Il agit avec justice dans tout ce qu'il fait. Il est bienveillant. Il est bienveillant. Il est près de ceux qui l'invoquent avec vérité. Nous l'avons déjà entendu tout à l'heure. Il est près de ceux qui l'invoquent avec vérité. Il réalise les souhaits de ceux qui le craignent. Il entend le cri de ceux qui le craignent et les sauve. Il entend. Nous avons un Dieu qui entend, un roi éternel qui entend les cris de ceux qui le craignent et les sauve. Il garde ceux qu'il aime et il détruit tous les méchants. Voilà tous les éléments qui manifestent, que David veut nous montrer. Il pourrait continuer, bien entendu, mais déjà toute une liste pour qu'on se mette à louer ce Dieu qui prend soin. Et pour chacun de ces éléments, nous pourrions nous arrêter longuement pour voir au travers de l'histoire tout ce que Dieu a fait pour soutenir ceux qui tombent, par exemple. De l'histoire que l'on voit depuis Adam, mais jusqu'à maintenant, au travers de toute l'histoire de l'Église aussi. Par exemple, lorsqu'il est dit qu'il donne la nourriture, je trouve intéressant de juste réfléchir. Vous avez déjà vu des insectes ? Oui, je pense. Surtout en été, les moustiques, on les connaît, d'accord ? Mais d'autres insectes aussi dans la nature. Les insectes se nourrissent souvent du nectar des fleurs. Vous avez vu des fleurs en hiver ? Moins, hein ? Beaucoup moins. En fait, les fleurs poussent au moment où les insectes ont besoin de ces fleurs. En fait, Dieu donne la nourriture en son temps. Puis ça, c'est pour toute la nature. Nous pouvons le vérifier. Tout est synchronisé. Chaque chose en son temps. Et cela fait bien sûr également penser aux paroles de Jésus dans Matthieu 6, auxquelles j'ai déjà fait allusion tout à l'heure, lorsqu'il dit que les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, et pourtant, Dieu les nourrit. Et nous valons plus qu'eux, dit Jésus. Lorsque le psalmiste dit, un autre élément, Dieu réalise les souhaits de ceux qui le craignent. Eh bien, nous pensons directement aux paroles de Jésus que nous avons appris par cœur tout dernièrement dans Jean 15, verset 7. Vous vous souvenez ? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est exactement dans la même notion que le psalmiste ici propose ce texte. Il est aussi dit au verset 18, l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent. Là, j'aimerais juste vous raconter une petite histoire que je trouve très intéressante et qui me parle beaucoup à ce sujet, qui va aussi nous encourager à prier. Un jour, en fait, une dame demande au pasteur de venir chez elle parce qu'elle soigne son papa qui est gravement malade, pour qu'il vienne lui rendre visite. Et lorsque le pasteur arrive dans la chambre du vieil homme, il voit une chaise à côté de son lit, alors il conclut qu'il était attendu. Alors il s'approche du patient et il lui dit, du malade, et il dit « Je pense que vous m'attendiez. » Puis le vieux monsieur lui dit « Non, j'ignore qui vous êtes. » Il se présente, il dit « Mais je suis pasteur et votre fille m'a demandé de vous rendre visite. Et quand j'ai vu la chaise qui était à côté de vous, j'ai pensé que j'étais attendu et qu'elle était placée là pour moi. Ah oui, la chaise. Vous voudriez bien fermer la porte, s'il vous plaît. Bon, il était un peu surpris, le pasteur, mais il va fermer la porte. Il va vers le vieux monsieur et dit, jamais je ne l'ai dit à personne. Mais en fait, ma vie a passé sans que je sache vraiment prier. À l'église, j'entendais toujours parler de la prière, quand on devait prier, les avantages qu'on pouvait en retirer. Mais bon, ça entrait dans une oreille et ça ressortait par l'autre. De toute façon, j'ai aucune idée comment prier. Ayant environ 4 ans, j'ai un ami qui m'a dit, « Voyons mon ami, la prière, c'est tout simplement dialoguer avec Jésus. Alors voilà comme je te conseille de t'y prendre. Tu t'assieds en face d'une chaise vide et tu parles avec respect, amour et confiance comme si Jésus y était assis. Tout comme nous parlons maintenant. » Et ce n'est pas une absurdité, parce qu'il a dit qu'il serait avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est un jour que j'ai essayé, et je m'en suis trouvé bien. Et en fait, depuis, je prie jusqu'à 2 heures par jour. Mais bon, je prends mes précautions, parce que si ma fille m'entendait, elle me ferait immédiatement interner. Alors le pasteur était profondément touché, vous comprenez bien, par ce que cet homme venait de lui dire. Ils ont prié ensemble et il est parti. Et quelques jours plus tard, la fille annonce le décès de son père au pasteur. Et le pasteur lui dit, mais est-il mort dans la paix? Alors il répond, oui, alors en fait, voilà comment ça s'est passé. J'étais faire mes courses et je lui dis que je sortais. Et quand je suis revenu, il était décédé. Et chose étrange, avant de mourir, il s'est suffisamment approché de la chaise près de son lit pour pouvoir y poser sa tête. C'est dans cette position bizarre que je l'ai trouvé. Vous croyez que ça veut dire quelque chose? Et le pasteur, profondément ému, a compris justement que cette position correspondait à une dernière prière. On pourrait dire sur les genoux du Seigneur. Il murmura à sa fille, si seulement chacun pouvait s'en aller de cette même façon. J'aime bien le texte du psaume 145 qui dit justement, l'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent. En fait, il prend soin de son troupeau comme un bon berger le fait avec bienveillance. L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent. Et j'espère pour vous que c'est une puissante motivation à la prière. L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent. Quelle joie de reconnaître dans nos vies et dans la vie d'Église l'œuvre bienveillante de notre Dieu de providence. N'hésitons pas à suivre l'application du psalmiste au verset 21, où il dit « Que ma bouche dise la louange de l'Éternel. » Que ma bouche dise la louange de l'Éternel. Alors, j'aimerais nous donner un petit défi, ou nous encourager, pour la semaine qui s'ouvre aujourd'hui. Pourquoi pas cette semaine, chaque jour, dire une louange de l'Éternel. Alors on peut le noter pendant qu'on fait notre culte personnel, par exemple, et ensuite le dire pour que ça sorte de notre bouche. Que ce ne soit pas juste dans notre tête, que ce soit dans nos pensées, mais que ça sorte de notre bouche. Dire une louange à l'Éternel, de l'Éternel. On peut le faire, par exemple, lors d'un repas, enfin, différent, ou dans un téléphone, c'est égal, il y a toutes sortes de moyens. Mais qu'on pense à louer l'Éternel, afin que notre bouche dise la louange de l'Éternel. Et en conclusion, j'aimerais vous attirer un instant votre attention au verset 7. Le verset 7 du psaume 145. Parce qu'après tout ce que nous venons d'entendre sur notre Dieu si extraordinaire, j'aimerais que nous gardions longtemps gravé dans nos cœurs la première partie du verset 7, qui nous dit « On évoquera le souvenir de ton immense bonté. » On évoquera le souvenir de ton immense bonté. Ce Dieu si grand est en-dessus de toute notre imagination. Ce Dieu qui délivre pour l'éternité, ce Dieu prend soin de chacun et il prend soin de l'Église comme il l'a fait jusqu'à maintenant. Et il l'a fait en donnant à l'église réformée baptiste de Neuchâtel des locaux pendant de nombreuses années par l'intermédiaire bienveillante de l'église réformée évangélique de Neuchâtel. Et c'est une manifestation de la bonté de l'Éternel. C'est un souvenir à ne pas effacer, mais à repasser dans nos cœurs avec une grande admiration de notre Dieu et une grande reconnaissance. C'est ainsi que nous pouvons évoquer le souvenir de son immense bonté. C'est le verset 7. On évoquera le souvenir de ton immense bonté. De plus, non seulement nous avons été longtemps dans cette situation de locaux, mais lorsque la chapelle à Courcelles était utilisée par quelqu'un d'autre, dans sa bonté, l'Éternel a conduit nos bienfaiteurs à nous accorder un autre lieu de culte, comme le temple à Courcelles ou celui de Peseux. Lorsque la chapelle à Courcelles n'a plus pu être utilisée, Dieu, dans sa bonté, a mis à cœur à nos bienfaiteurs de nous proposer la salle de paroisse de Peseux et d'aménager les réservations de telle sorte que l'on puisse avoir les cultes presque chaque dimanche, tous les mois et deux soirées par mois. Nous avons toujours eu et nous désirons continuer à avoir de bonnes relations avec les personnes de contact de l'Érenne. On évoquera le souvenir de ton immense bonté. Vous voyez comment on peut le faire? En se souvenant de la bonté de Dieu dans ce qu'il fait pratiquement pour nous. Et cette évocation fait monter en fait notre louange, notre reconnaissance, notre gratitude envers notre Dieu. Et l'histoire n'est pas terminée. Il nous a déjà également montré sa bonté pour la suite concernant les locaux, par exemple. Et le souvenir continuera à se remplir et démontrer que la bonté de Dieu n'est pas petite, mais qu'elle est immense. C'est écrit dans le texte. Immense, c'est-à-dire en abondance. Que l'Éternel soit exalté, loué, béni. Ses œuvres le célèbrent et nous voulons dire ses louanges à toujours et à perpétuité. Et comme le dit le psalmiste, nous avons déjà cité tout à l'heure ce psaume 103 au verset 2. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et nous allons prier pour terminer. Ô Père notre Dieu éternel, tu es si grand que nous n'aurions pas assez de temps de notre vie pour te décrire totalement. Seigneur, cela nous le savons par ta parole, mais j'aimerais Seigneur te prier que nous puissions le savoir par nos cœurs, que nous puissions réellement le saisir ta grandeur. Et Seigneur, saisir ta grandeur, en même temps que nous saisissons que tu es le Dieu de délivrance. Car ta grandeur sans ta délivrance nous écrase. Mais ta grandeur avec ta délivrance nous mène à la louange. Nous mène à la reconnaissance. Seigneur, tu es un Dieu qui prend soin de nous chaque jour. Tu es un Dieu de providence. Un Dieu qui connaît chacune de nos situations. Et combien de situations nous pouvons voir quand nous regardons le passé, nous pouvons voir, Seigneur, ta bonne main, ta main bienveillante, ta main encourageante, ta main qui nous corrige, ta main qui nous forme pour que nous devenions ressemblables à Jésus-Christ. Ô Seigneur, nous voulons t'exalter, te louer, te bénir à perpétuité, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.